Bonsoir à toutes, à tous. Est-ce qu'on peut fermer la porte derrière? Voilà, merci quelqu'un. Alors j'espère que vous avez réalisé que nous avons cours demain. Donc ça va, parce qu'il n'y aura pas de cours évidemment le 11 novembre, qui est férié en France. Alors j'ai reçu une question par écrit, donc pour vous inviter à faire de même, je vais tout de suite réagir. Je suis actuellement en contemplation évangélique avec l'évangile de Marc. Il me semble qu'au final, le message de Jésus n'a pas été reçu comme il aurait souhaité. Et cela en dépit des miracles et de l'autorité imminente qui émanait de sa personne. Donc, vous voyez, c'est une constatation, c'est une question qui porte au fond sur le problème de l'identité et recevabilité. Vous rappelez le premier chapitre de cette première partie. Alors je continue la lecture. Pour que la réception ait lieu, il faudra attendre les manifestations de Jésus ressuscité, bien sûr. Son message ne sera accueilli qu'à la suite de la secousse humaine, psychologique, spirituelle, inouïe de la résurrection. Même les disciples d'Emmaüs ne comprennent la parole qu'après avoir reconnu Jésus, alors que c'est Jésus lui-même qui à nouveau les enseigne, idem pour Paul de Tarse. À notre époque, il ne se produira pas ce genre de phénomène pour faire entendre le message. Donc ça, c'est très très bien, je dirais, décrit. Donc on a le récit évangélique et on voit bien la difficulté fondamentale de la recevabilité. C'est la crucifixion qui est le scandale par excellence. Et donc la résurrection, les apparitions du ressuscité sont donc ce moment-là où après cette secousse, d'une manière absolument inouïe, le mot est juste, le message devient recevable dans la foi, et il produit la foi. Voilà. Donc c'est très bien vu. Alors je ne vais pas insister sur ce point maintenant, en détail, je ne l'ai pas encore fait expressément, parce que vous allez voir dans la deuxième partie du cours, on va revenir évidemment à la mort et la résurrection du Christ. La foi chrétienne c'est quoi? Pour le moment je l'ai dit d'une manière très très formelle avec l'apôtre Paul. Si de ta bouche tu proclames que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Vous voyez, je me suis contenté pour le moment de ce kérigme. Mais quand on pose évidemment la question, la foi chrétienne c'est quoi? Pourquoi y adhérer? Alors à ce moment-là, il faut très, très prendre au sérieux la remarque qui vient d'être faite ici. Donc je parlerai de la résurrection, encore une fois, dans la deuxième partie du cours, à la page 38-39 de votre polycopier. Alors, je sais que ma question est provocante. Je continue. N'y a-t-il pas eu défaut de forme de recevabilité dans la prédication de la bonne nouvelle par le Christ? Comment chercher à suivre le Christ dans notre façon d'annoncer la bonne nouvelle, puisqu'avec lui, cela n'a pas marché? Ah si, ça a marché. Sinon, on ne serait pas là. Vous ne seriez pas ici, et moi non plus. Ah, si, ça a marché. Donc le fait historique de l'existence ecclésiale montre quand même que Jésus a annoncé l'évangile de manière recevable. Alors évidemment, je vous avais dit, la recevabilité, c'est pas immédiat, c'est pas une recevabilité d'un message de pub. Ça passe par l'épreuve. On a bien vu cela, parce qu'il s'agit de recevoir le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Donc, il y a vraiment ici une mutation, une conversion. Convertissez-vous, il ne faut jamais oublier cette formule. Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous. Donc c'est une recevabilité qui doit rendre possible la conversion. Voilà. Donc là, je formule une petite réserve. Alors ensuite, il y a une deuxième question. On va prendre quelques instants, ça vaut la peine. Traditio, livraison, mémoire. Dans votre cours du mercredi 15, vous employez souvent, me semble-t-il, de façon analogique, les expressions identité chrétienne et tradition chrétienne. Oui, oui, oui. Alors, si vous regardez un peu dans votre polycopie, à la page 20, 21, on va arriver à cette question. L'identité comme tradition. Donc parfois il faut un peu de patience, c'est-à-dire j'identifie un peu rapidement des choses en prenant rendez-vous donc avec la suite du cours pour expliciter ce point. Donc il faut préciser. Alors je reviendrai évidemment à la fin de cette partie au problème culturel. Est-ce que, comment comprendre la transculturalité, si je peux m'exprimer ainsi, de la révélation? Voilà, ça c'est aussi une question. Alors, dernière petite question, oui, qui est un tout petit peu en dehors, mais j'y réponds quand même. Kyrios égale Seigneur Dieu. Quand Thomas écrit devant Jésus ressuscité, mon Seigneur, Kyrios et mon Dieu, qu'est-ce que ajoute ce qui m'apparaît comme la répétition de la même exclamation? Ah oui, évidemment, il y a une répétition, mais elle est extrêmement significative dans la théologie johannique. Parce que vous savez bien, dans la culture juive et dans le judaïsme, le mot « théos » dans la Septante est réservé à Dieu lui-même. Et donc, si Thomas s'écrit devant Jésus ressuscité « Mon Seigneur et mon Dieu », donc, il crée ici un lien, on pourrait dire déjà implicitement trinitaire, entre le Père et le Fils. Vous voyez, c'est Jean 17 qui revient ici. Voilà, merci en tout cas pour la question, et si vous en avez d'autres, tout en exerçant évidemment votre patience, dans un cours on est très progressif, et parfois les choses seront plus détaillées, explicitées dans la suite. Alors, on est dans la première partie. J'aimerais à peu près terminer demain, parce qu'on a de nouveau 15 jours d'interruption, si possible. Donc, vous voyez un peu la logique. C'est la question de l'herméneutique fondamentale. La foi chrétienne, c'est quoi? C'est ça la question. Donc, le premier chapitre, c'est le problème de l'identité et le rapport à la recevabilité. Donc j'ai longuement développé avec cette étonnante concentration à partir du 19e siècle sur la révélation. Sur la révélation. C'est le concept d'autorévélation, d'autocommunication de Dieu qui permet de sortir de cette dichotomie entre une identité d'un côté, une recevabilité de l'autre côté. La recevabilité fait partie de l'identité même. Dieu se rend recevable. Sinon, on n'aurait pas d'intérêt à s'y intéresser, si je puis dire. Dieu se rend recevable. Et ça, c'est la force du concept auto-révélation et auto-communication. On ne peut pas penser Dieu en dehors de sa communication à nous. Autrement dit, je le redis, c'est tellement important. Vous n'avez pas d'abord, si vous voulez, je dirais, quelque chose derrière qui resterait obscur, et ensuite, alors Dieu révélerait un peu une partie de lui-même. Non, le concept d'auto-révélation, il donne accès à son intimité. Donc c'est ça le cœur de la tradition chrétienne. Donc ça, c'était la première partie. Vous voyez, là, on est allé très rapidement au centre même de la foi chrétienne. Et ensuite, on est rentré dans l'histoire, et on y est encore, et on va y rester un bon moment. Il y a donc ces cinq termes qui permettent de dire l'identité de la foi chrétienne. Ça, c'est génial, tout à fait, au début. La voie, le triangle central, évangile, mystère, révélation, et le cinquième terme, doctrine, auquel nous allons revenir pas mal aujourd'hui, et demain, évidemment. Et donc, je vous ai montré que, au fond, le Concile de Trente choisit surtout Évangile comme terme central, Vatican I choisit surtout révélation, révélation. Et Vatican II rétablit le triangle avec les deux autres termes, voie et doctrine. Donc à Vatican II, on a de nouveau, si vous voulez, dans des verbum et dans les autres textes, un peu la totalité, l'intégralité des syntagmes, comme on dit aussi, chrétiens. Voilà le point où on en est. Alors, on a déjà la dernière fois abordé pendant un long moment le Concile Vatican I, et j'ai commencé avec le Concile Vatican II. Donc, on est à peu près donc à la page 18-19. Il faut d'abord tranquillement terminer ça et entrer un peu dans les textes. Mais je voudrais d'abord vous dire ceci, le point avec lequel j'ai terminé la dernière fois. Vatican I, même si c'est inachevé, forme un tout. Et Vatican II forme un tout. Donc, quand vous lisez Dei Verbum, j'espère que vous avez commencé à regarder ce texte, quand vous lisez ce texte, vous voyez, il n'y a pas tel ou tel point qui se déplace seulement, mais ça change de tout en tout. Alors, pour utiliser une image, pour comparer les choses un tout petit peu, si vous regardez, on appelle ça le perspectivisme, la réalité à partir d'une fenêtre, la révélation chrétienne, l'identité chrétienne, vous ne le regardez pas par une autre fenêtre. Le regard sur la révélation au XIXe siècle est différent que celui que Dei Verbum va porter sur cette même révélation. Donc ce sont des points de vue différents, des regards différents. Et c'est là où on touche, si vous voulez, à l'historicité de l'identité chrétienne. Ce point est très très important parce qu'il est lié, je reviens un tout petit peu au premier chapitre, à la linguistique et à l'idée de culture. Vous voyez, la langue est un système, je vous avais dit ça, le français est un système, l'allemand est un système, l'anglais est un système. Et on dit analogiquement que les textes de Vatican I forment un système et les textes de Vatican II forment un autre système. C'est pour cela que je vous ai lu les prologues. Voyez le prologue de Vatican I avec cet espace très très curieux ecclésial qui nous est projeté dans ce texte. Et je vous ai présenté le schéma global de Vatican II qui fonctionne d'une toute autre manière, qui est une toute autre vision du monde. Donc ce point important, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, j'ai dit, des continuités extrêmement profondes de l'un à l'autre. La continuité entre Vatican I et Vatican II, c'est le mot révélation. Vous l'avez dans les deux textes, le même mot auto-révélation, mais déterminé d'une manière différente. Voilà, donc je voulais d'abord dire cela. Alors maintenant, on va prendre, si vous voulez, je dirais, le schéma numéro 9 pour exemplifier ça. Et on va suivre donc tout à fait en bas de la page 18, mais je vais un peu changer ma manière de procéder. Donc ce schéma, vous voyez, synoptique, pour vous réexpliquer d'une manière un peu technique la mutation d'un point de vue à un autre. Vous avez donc les deux textes qui sont tout à fait comparables, De Filius et Dei Verbum. Donc, j'espère que vous l'avez trouvé, le schéma 9. Je vais vous indiquer la page. Si vous cherchez, 78, vous voyez, encadré, le 78. Voilà. Donc, vous avez d'un côté Dei Filius, les quatre chapitres. On les a regardés de près la dernière fois. Donc, le chapitre 2 porte sur la révélation, mais précédé par un chapitre sur la création. Répond à la révélation la foi, et ça se termine avec ce chapitre sur la foi et la raison, et vous avez ce prologue surprenant pour nos oreilles, pour nous, qui est au début. Alors, de Dei Filius à Dei Verbum, on a déplacé les matières, et on voit tout de suite ce qui est nouveau, je l'ai déjà explicité la dernière fois, c'est évidemment, je dirais, c'est la finale qui est nouvelle. Tout d'un coup, l'écriture devient réellement la matrice de la théologie. Ou comme dit le chapitre 6, l'écriture est l'âme de la théologie. Et ça se voit, si vous voulez, dans le texte lui-même. Donc, un chapitre propre sur l'inspiration et l'interprétation. Ensuite, l'Ancien Testament. Ensuite, le Nouveau. Et ensuite, la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Le chapitre est décisif parce qu'ici se trouve la bifurcation vers deux autres textes qu'on relie jamais à ce chapitre 6. Le texte sur l'Église, Lumen Gentium, et le texte sur la liturgie. Le texte sur la liturgie, l'Écriture dans la vie de l'Église, c'est ce que le chapitre 6 appelle les deux tables, la table de la parole et la table du pain et du vin. De la scène. Voilà. Donc ça, si vous les voyez, c'est tout à fait neuf. Alors, pour le reste, le matériel est redistribué à l'intérieur des deux chapitres. Alors, si on remonte l'écriture nous parvient, évidemment, par la transmission de la révélation, par la tradition. Les deux sont intimement liés. Donc, on va vers le chapitre 2 qui nous parle de la tradition. La transmission de la révélation divine. Et de là, on peut remonter encore vers l'origine, la révélation. La révélation. Voilà cette structure du 2D verbum, très différente, évidemment, de celle de Dei Filius. Alors, maintenant, vous tournez un peu en avant, on va venir vers le schéma 8. Le schéma 8. Et donc ça me permet maintenant d'entrer un tout petit peu avec vous. C'est le point 2, donc à la page 18, le tiret, la structure du texte, et donc avec le schéma 8, et le point 2, où on trouve maintenant quelques distinctions tout à fait décisives, et qui sont indiquées ici par les flèches. Et comme ça, on va rentrer un peu dans le détail du texte. Donc, je vous ai lu déjà la dernière fois le prologue, le préambule, pré-eumurum en latin. Et donc, vous trouvez ici, ce que j'indique ici dans mon polycopier, les deux versants, et ça c'est une première distinction tout à fait décisive à retenir, le versant kérigmatique et le versant doctrinal. Alors, j'expliquerai ces termes. Parce que il y a évidemment ici un énorme problème qui est sous-jacent, que Dei Verbum ne règle pas, et qu'il faut reprendre ensuite dans le chapitre 3 de cette première partie. Alors, kérigme, préconium en latin, c'est l'annonce de l'Évangile. Vous voyez, ça commence par cela. En écoutant, et l'annonce qui présuppose toujours l'écoute. On ne peut pas annoncer si on n'a pas d'abord écouté. Donc ça, c'est absolument remarquable ici dans le texte. On entre dans le kérigme, le concile s'institue sujet, voilà, et c'est lui le sujet, le concile, le Saint-Concile, il est le sujet. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il prend la parole pour d'abord écouter. Et qu'est-ce qu'il écoute? C'est l'Écriture. Il écoute Jean parler. Et donc, on est dans le processus kérigmatique. Et je vous renvoie au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, avec qui nous avons commencé le cours, et avec le schéma 1, où je décris cœur et bouche. Vous vous rappelez, avec cette formule que j'ai déjà citée tout à l'heure, « Si de ta bouche tu confesses, si tu crois dans ton cœur ». Donc, on entre dans un processus, et un processus kérigmatique, qui a évidemment, je dirais, des émetteurs et des récepteurs. Mais l'émetteur lui-même est d'abord un récepteur. Il écoute et ensuite il parle. Et ça se termine évidemment comme ça. Voilà. Afin qu'en entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit, qu'en croyant il espère, qu'en espérant il aime. Saint Augustin, c'est les trois vertus théologales ici qui sont rappelées. Voilà, ça c'est donc le niveau le plus élémentaire et que, au fond, l'Église, depuis le début, met toujours accomplit toujours quotidiennement, quotidiennement, voilà, dans l'écoute et l'annonce, dans la liturgie, mais évidemment pas uniquement dans la liturgie, dans la mission, dans tous les actes. Voilà. Donc ça, c'est le niveau élémentaire. Et se greffe là-dessus un deuxième niveau que nous risquons toujours de confondre avec le premier, c'est un problème, c'est le niveau doctrinal. Doctrine. Alors, c'est le cinquième terme, voie, hein, évangile, mystère, révélation, doctrine. Donc c'est la question de la doctrine. Qu'est-ce que c'est la doctrine? Pourquoi la doctrine? Vous voyez, elle vient tout de suite ici dans le prologue. C'est pourquoi, suivant la trace des conciles de Trente et de Vatican I, il entend proposer la doctrine véritable sur la révélation divine et sur sa transmission. Donc, vous voyez, on est dans ce qu'on appelle techniquement dans un niveau méta, méta-niveau, second, c'est sûr. Donc, l'acte effectif, c'est l'acte kérigmatique, et à un deuxième niveau, on réfléchit sur qu'est-ce que c'est cet acte. Qu'est-ce que c'est cet acte? Et c'est ça la doctrine. Et parfois, le problème, c'est qu'on confond doctrine et kérigme. On prend la doctrine, l'instruction pour un kérigme. Alors, c'est pas la même chose. Vous voyez? C'est pas la même chose. On est déjà à un autre niveau. On réfléchit sur. Et on peut disserter, comme dans ce cours ici, je dirais, pendant je ne sais pas combien d'heures sur, mais ça veut pas dire que l'acte kérigmatique s'effectue effectivement. Voilà. Ça, c'est la réserve de la théologie et de la doctrine qui était dans ma définition que je vous ai donnée dès la première séance. Donc, vous voyez là les Alors, maintenant, regardez un tout petit peu donc ce schéma 8. Vous voyez les flèches. Donc, vous voyez en haut, annonce de l'évangile. On a vu la préambule. Et alors, ça revient évidemment continuellement dans le numéro 2, dans le numéro 5, dans le numéro 8, dans le numéro 9. Et ça revient surtout dans le numéro 16. Et alors dans le numéro 17, regardons pour ceux qui ont le volume, j'espère que maintenant tout le monde l'a, le numéro 17, alors vous n'avez pas ça dans votre dossier. La parole de Dieu qui est une force divine pour le salut de tout croyant, Romains 1, 16, se présente dans les écrits du Nouveau Testament et sa puissance y manifeste de façon singulière. Voyez, là c'est le kérigme. Dans la formule de l'Épître aux Romains, 1,16. Voilà. Donc, voyez bien, je dirais, tout le texte réfléchit sur, mais c'est, au fond, la racine du kérigme est exposée dans le numéro 17. Dans le numéro 17. Alors, ensuite vient, évidemment, je dirais, la doctrine. Alors, pourquoi la doctrine? Voyez, dans mon polycopier, je vous donne déjà une petite réponse, parce que la parole de Dieu est toujours déjà parole interprétée. Gravez-vous cette formule-là dans votre esprit. La tradition chrétienne n'est pas une religion du livre. Donc, la parole de Dieu, la voix, comme dit la Bible, la voix de Dieu à entendre quotidiennement, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur, l'invitatoire, des matines, le matin, voilà. C'est l'aujourd'hui. Donc ça, c'est l'écoute et qui conduit vers l'annonce. Mais une chose, c'est écouter, et d'autres choses, c'est exprimer dans une langue et dans une culture ce qu'on a entendu. Et donc la parole entendue, la parole avec un grand P, est toujours une parole déjà interprétée. Et alors, quelle est l'interprétation authentique de la parole de Dieu? D'abord, évidemment, l'Écriture. L'Écriture. L'Écriture inspirée. Alors, on va revenir à ce terme plus tard. Ça, c'est le chapitre 3. Mais évidemment, cette écriture, elle est portée à travers l'histoire et elle est à la fois clôturée, finie, comme la révélation est finie, mais en même temps, il faut continuer à l'interpréter. Donc le processus d'interprétation ne s'arrête pas. Vous voyez, je reviens au point de départ et je viens de vous le montrer. C'est le premier chapitre et c'est le deuxième chapitre. Il y a ces cinq mots, mais on a cessé d'interpréter l'écriture. Et la centrer autrement, l'évangile, la révélation, l'ensemble du triangle, etc., dans des cultures au pluriel. Donc c'est ça la raison d'une doctrine. Donc la doctrine, je vous donne déjà une petite définition, régule l'interprétation. Elle régule l'interprétation. Ne prenez jamais la règle pour la chose elle-même. Prenez jamais la règle pour la chose elle-même. Alors vous avez évidemment ça dans le numéro 10, voyez, où intervient la tradition, l'écriture et le magistère. Et vous avez ça dans le numéro 12, comment interpréter l'écriture. Et le numéro 12 est absolument remarquable. Benoît XVI l'a remis en valeur lors du synode sur la parole de Dieu. Regardons pour ceux qui ont le texte, le volume, le numéro 12, voyez, dans ce numéro 12, comment interpréter l'écriture. Donc vous avez un premier paragraphe qui donne le principe, et ensuite, pour découvrir l'intention des hagiographes, donc les hagiographes, c'est les saints écrivains, pourrait-on dire, selon saint Marc, selon saint Jean, saint Paul, vous voyez, ce sont les hagiographes, ce sont des apôtres qui écrivent. Alors après, il y a des problèmes historiques derrière, mais bon, je ne vais pas aller dans les détails. Pour découvrir l'intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi les genres littéraires, car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques, en des textes ou prophétiques ou poétiques ou même en d'autres genres d'expression. Vous voyez, on prend au sérieux ici la culture, l'expression. Mais ce n'est pas suffisant, le dernier paragraphe. Cependant, puisque la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui la fit rédiger, donc l'Esprit Saint, on va y revenir à ce problème de l'inspiration dans la troisième partie du cours, il ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter moindre attention au contenu, à l'unité de toute l'Écriture. L'unité, eu égard à la tradition vivante de toute l'Église, et alors un terme difficile que j'expliquerai aussi plus tard à l'analogie de la foi. Donc vous voyez, ça c'est l'interprétation, la parole de Dieu, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Dites jamais, je vais lire la parole de Dieu maintenant. Vous lisez l'Écriture pour entendre la parole de Dieu. Et quand le prêtre ou le diacre lève le livre, acclamant la parole de Dieu, vous ne dites pas, nous acclamons maintenant le livre, mais vous dites, parce que vous avez déjà commencé à écouter, « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Voilà. C'est extrêmement important ce point, notamment aujourd'hui où il y a tellement de confusion entre le Coran, la Bible juive, le Talmud et l'Écriture que nous appelons sainte. Voilà. C'est pas le même statut. Bon, j'espère que vous avez bien saisi ce point tout à fait décisif. Alors ça, c'est la première distinction dans le texte. Ensuite, le texte vous précise un peu, alors là, je vais juste vous donner, c'est le petit point B, les Écritures où la parole de Dieu se trouve dans les langues humaines. Vous voyez déjà un peu, j'ai déjà dit ça, mais c'est magnifiquement exprimé dans le numéro 13. Dans toute la Sainte Écriture, la vérité et la sainteté de Dieu restant toujours sauves, se manifeste donc la condescendance merveilleuse de la sagesse éternelle pour que nous apprenions l'ineffable bienveillance de Dieu et à quel point aussi dans ses soins prévenants pour notre nature il a adopté son langage, c'est Saint Chrysostome, n'est-ce pas? Dieu a adapté son langage. Bon, c'est le 5e siècle, on dirait peut-être plus exactement comme ça aujourd'hui. C'est là où il faut penser l'analogie. C'est-à-dire le verbe de Dieu, c'est-à-dire notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle. Qui se dit lui-même à nous. Voilà. Qui se dit, qui se communique, qui se révèle. Et donc, vous voyez, vous avez parfaitement indiqué ici la recevabilité. Les langues humaines. En effet, les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, ont pris la ressemblance du langage des hommes, de même que jadis le verbe, voilà cette analogie décisive, de même que jadis le verbe du Père éternel, ayant pris l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Voilà, c'est une extrême précision. Donc ça, c'est le deuxième point, si vous voulez, qu'il faut retenir, et donc qui est surtout développé dans tout le chapitre 3, dont j'ai déjà lu le numéro le 12 et le numéro 13. Alors ensuite, la troisième chose, le point C, la Sainte Écriture se trouve dans la vie de l'Église. Donc on ne peut pas séparer la Sainte Écriture de ceux qui la lisent, d'abord de ceux qui l'ont rédigée. Donc elle n'existe pas sans les personnes, et ce sont les personnes qui sont à la fois individuelles et qui sont un collectif, les 12, et le texte Dei Verbum Sed ajoute des hommes apostoliques, c'est-à-dire parce qu'on sait bien, n'est-ce pas, que Marc n'est pas un apôtre, Matthieu n'est pas un apôtre, sans doute, etc., et que c'est un processus historique. Donc c'est à la fois les 12 et les communautés chrétiennes dont ils font partie. C'est ça que nous montre l'histoire. Donc l'écriture n'est pas pensable sans ceux qui l'ont mis par écrit, en écoutant la parole de Dieu, et évidemment ceux qui la lisent pour de nouveau écouter la parole de Dieu. Donc des personnes et la communauté chrétienne. Donc je souligne ici cela, et donc vous avez la relation entre acteurs et ecclésiaux différemment situés. Alors regardez un peu dans le schéma. Dans le schéma, ça vient, vous voyez à partir du numéro 7, vous avez là une accroche, donc le schéma 8. Les apôtres et leurs successeurs, héros de l'Évangile, alors c'est une manière de parler, hein, c'est-à-dire ceux qui l'annoncent, ceux qui et leurs successeurs, donc c'est tout le problème, on va y revenir, la succession apostolique qui est beaucoup discutée entre les églises d'un point de vue œcuménique, et vous avez évidemment l'écriture et j'ai dit le magistère, mais on vous dit bien dans le chapitre 2, le numéro 10, vous avez cette formule qui devrait être normale, mais qui ne l'a été pas dans l'Église catholique. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert. N'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, on laissera pour le moment ces formules techniques, il écoute, vous voyez, on le redit de nouveau, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité, et puis en cet unique dépôt de la foi, donc il y a un seul dépôt de la foi qui est la parole de Dieu, Dieu qui nous parle, voilà, tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Voilà, donc le magistère, et voyez, on va plus loin, quand on arrive au numéro 11 et au numéro 12, l'inspiration, vous avez d'autres acteurs qui interviennent, les exégètes, les biblistes. Et quand vous voyez chapitre 6, vous avez les catéchètes, vous avez les ministères de la parole, etc. Vous voyez, tout ça, ça donne une sorte de corps très différencié d'acteurs qui sont à la fois, je dirais, ceux au début qui ont mis par écrit les Écritures, je redis toujours en écoutant Dieu leur parler, et qui en même temps deviennent les lecteurs et les interprètes à travers l'histoire. Et c'est ça ce qu'on appelle déjà la tradition. La tradition. Voilà donc, c'est la troisième distinction. Et maintenant, la transmission de la révélation. Donc, la transmission de la révélation apparaît ici une distinction qui n'est pas claire dans le texte, il faut bien le reconnaître, entre parole de Dieu et révélation. Donc, vous voyez, j'ai utilisé ces termes jusqu'à maintenant de manière un peu équivalente. Et en même temps, quand on regarde de près le texte, ils ne sont pas tout à fait équivalents. Alors, regardons, pour être plus clair, ça, tout le monde doit avoir ça dans son texte, le numéro 4 de Dei Verbum, la finale. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, donc l'alliance nouvelle, toujours nouvelle, je vous ai parlé de l'évangile en expliquant ça, définitive, vous rappelez, je vous en ai parlé aussi. Pourquoi c'est définitif? Parce que si Dieu vraiment se révèle lui-même, il n'y a plus d'autre chose à révéler. Donc c'est définitive. Ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique. Alors là, on est prudent. On ne se prononce pas sur Lourdes et d'autres, je dirais, types de révélations. Ne parlez jamais de cela, de révélation. C'est pour ça qu'on dit public ici, pour ne pas se prononcer sur ce type de questions un peu complexes et compliquées. Voilà. Il y a donc, il faut toujours insister sur le définitif, une fois pour toutes. Voilà. N'est dès lors à attendre, aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre, avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc la révélation, l'auto-révélation, l'auto-communication de Dieu est donnée une fois pour toutes en Jésus-Christ. Voilà. Qui nous envoie son esprit, et c'est dans l'esprit que nous pouvons la recevoir et l'interpréter à travers l'histoire. Ça, c'est la révélation de Dieu. Alors, la parole de Dieu, voyez, c'est la voix de Dieu. Alors, regardez, vous avez une magnifique formule, je dirais de saveur luthérienne. On va y revenir à ça, je dirais un tout petit peu plus tard, le numéro 8, la finale. Ainsi Dieu qui parla jadis, donc vous voyez, là vous avez le passé, qui parla jadis, ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile, la viva vox evangelii, ça c'est la formule de Luther, retentit dans l'Église et par l'Église dans le monde. Introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait que la parole du Christ réside en eux avec toute la richesse. Donc vous voyez ici la distinction entre révélation et parole de Dieu. À la fois, évidemment, c'est la même réalité, mais la révélation est clôturée, finie, une fois pour toutes, tout est donné. Saint Jean de la Croix qui nous dit ça magnifiquement, je pense que j'ai cité cette formule de lui. C'est-à-dire qu'en interprétant Hébreux 1, jadis Dieu a parlé, mais en ces derniers temps, il a parlé par son propre Fils, il dit, ne faites pas comme des petits-enfants qui demandent toujours encore à leurs parents, parle encore papa, dis encore. Et donc du coup, je dirais, vous rechercherez encore des manifestations, continuellement des signes, alors Dieu a déjà tout dit. Voilà. Donc ça, c'est la révélation. Alors, ce qui ne veut pas dire que Dieu ne converse pas avec son épouse, il continue, dans la mesure où l'évangile est d'une perpétuelle nouveauté, comme dit le pape François dans Evangelii Gaudium, d'une perpétuelle nouveauté. Donc la même chose, une fois pour toutes, et dans l'histoire, toujours entendue d'une manière nouvelle. Donc la voix de Dieu à entendre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut continuer à écouter, comme si on n'avait jamais écouté avant. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, je dirais la distinction. Ça nous conduit maintenant vers le problème de la révélation. Ça résonne beaucoup. Bon, je vais voir ça dans la pause. Alors, le numéro 2, la révélation. Alors, pour arriver maintenant au nœud, si vous voulez, au nœud et aussi au nœud conflictuel, je vous invite à prendre l'annexe 12. L'annexe 12. Alors, parce que là, vous voyez un peu de près, c'est un travail de dentelle de Bruxelles, je dis ça pour les femmes, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Mais on voit tout de suite, je dirais, ce qui a pu se passer ici. Voilà. 12. Donc, vous avez le schéma 11. Donc, cette comparaison synoptique, tout le monde devrait l'avoir. Donc, vous avez à gauche, donc, le chapitre 2 sur la révélation de Déiphilius. Et vous avez à droite la révélation divine. Et voyez les petites accroches un peu compliquées. Je vous invite à décoder ça un petit peu. Montre comment on a réorganisé, plume à la main, Déiphilius pour lui faire dire tout à fait autre chose. Donc là, on passe d'un système à un autre. On passe d'un système à un autre. Alors, on va regarder un peu en détail en regardant à droite. Il a plu à Dieu dans sa sagesse, donc c'est le numéro 2, et sa bonté de se révéler. Et alors là, corriger un tout petit peu, mettre un S avec une grande lettre. Une grande lettre. Se révéler. Voyez, c'est en latin, se ipsum, et ça se distingue fortement, nous allons le voir tout de suite, de Déiphilius. Donc l'autorévélation. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne, c'est comme ça on a traduit ici, et de faire connaître au singulier le mystère, et là en latin c'est sacramentum. Ah, vous voyez, c'est la traduction latine de mysterion, sacramentum, l'épître aux Éphésiens, Éphésiens 1:9. Et on voit tout de suite, je dirais, le caractère sacramentel de la révélation. C'est-à-dire, c'est quelque chose à la fois spirituel et charnel. Et charnel. Sacramentel. Le sacrement, voilà. Le sacrement de sa volonté, grâce auquel, et maintenant on part des hommes, les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair. Donc vous voyez, correspond au sacramentum, le Verbe chair, accède, alors là c'est la voix, vous rappelez, l'épître aux Romains, chapitre 5, la notion d'accès, de voix, premier des cinq mots, accède dans l'Esprit Saint auprès du Père, et alors on exprime l'intimité, et sont rendus participants de la nature divine. Voyez, c'est une magnifique formule circulaire. Vous retrouvez là toute la vision du monde de Vatican II. Voilà. Il a plu à Dieu, c'est lui qui prend l'initiative, dans sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le sacrement de sa volonté, et là on est en bas, grâce auquel, et maintenant on remonte, les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Et je continue encore tout petit peu. Dans cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son immense amour, ainsi qu'à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Donc, vous voyez, on redit encore une fois la même chose. C'est la même chose que la première phrase, avec d'autres mots. Et là, on introduit le vocabulaire de l'amitié. Je vous appelle plus serviteur, mes amis, voyez, Saint Jean. L'amitié, de la communication et évidemment l'invitation à la table même et à partager sa propre vie. Participer à la nature divine, partager sa propre vie, c'est la même chose. Donc, on est dans ce qu'on appelle, je l'ai rappelé la dernière fois, tout à fait à la fin, dans un modèle de communication. Un modèle de communication. Alors que vous avez à Vatican I, un modèle d'instruction. Et maintenant, vous regardez à gauche. Vous voyez, c'est évidemment le deuxième paragraphe qui, à Dei Verbum, dans Dei Verbum, devient le premier. Mais regardez comment ça sonne à Vatican I. Cependant, il a plu à sa sagesse. Donc, vous voyez, c'est pas très personnel, n'est-ce pas? Il a plu à la sagesse de Dieu, à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même. Alors là, c'est avec petit s, c, mais c'est quand même présent. Pas aux hommes, mais au genre humain. Vous voyez un peu l'abstraction ici. Et de révéler, et pas, c'est pas le singulier, le mystère, le sacrement de sa volonté, mais les décrets éternels de sa volonté. Vous voyez, je vous ai déjà dit ça quand on a lu Dei Filius, tout est au pluriel. C'est les vérités doctrinales, les vérités morales, les décrets. Vous voyez, on est dans un modèle d'instruction, par une autre voie, surnaturelle celle-là. Donc vous voyez, ça sonne tout à fait autrement. Alors on vient maintenant, et c'est autre. C'est deux systèmes différents. L'Église en position de surplomb, par rapport à la réalité. Vous rappelez, je vous ai expliqué ça avec ce schéma du prologue, elle se comprend comme instructrice de l'humanité. Et donc, elle se légitime en comprenant Dieu comme le grand instructeur, si je puis dire, de l'humanité. La révélation, c'est une instruction. Alors, à Vatican II, à partir de la matrice scripturaire, on comprend davantage un Dieu comme celui qui se communique, qui se rend recevable. Alors comment? C'est la suite. Pareille économie de la révélation. Alors là vient un terme très très important que vous trouverez d'ailleurs, je dirais, dans le schéma qu'on a regardé précédemment. Vous voyez, le schéma structurel, le terme économie revient à plusieurs fois dans Dei Verbum. Oikonomia, économie. Alors évidemment, ce n'est pas l'économie au sens que nous utilisons ce terme aujourd'hui. Il vient d'Aristote, ce terme. Donc on a un peu l'économie de la maison, vous voyez, la distribution, pourrait-on dire. La distribution, je veux dire, Dieu, le dessein de Dieu, c'est de distribuer ses biens dans l'histoire et de le faire d'une manière ordonnée. C'est ça que ça veut dire l'économie. Pareille économie de la révélation comprend, ah voilà le point essentiel, des événements et des paroles. Et ça vous le trouvez évidemment, je veux dire, dans les parties scripturaires du texte, c'est-à-dire vous le trouverez, je vais vous le redire, vous le trouvez dans le texte sur l'Ancien Testament qui parle de l'économie, 14 et 15, et vous le trouvez dans le numéro 17. Donc, l'idée d'un lien intime, intrinsèque, entre des événements, rappelez-vous de le début de Luc, les événements qui se sont produits parmi nous. Voyez, on est loin d'une doctrine ici, on est dans le processus même kérigmatique, tel qu'on le voit déjà chez Jésus, c'est toujours des événements de guérison, etc., des événements et des paroles intimement liés. Et le terme dit « intrinsice », c'est-à-dire intrinsèquement liés entre eux, comme dans le sacrement. Comme dans le sacrement. Le sacrement est un événement avant d'être un rite. C'est un événement. Un événement de paroles et évidemment de signes. Alors du coup, vous voyez, si vous regardez maintenant un peu la suite de ce texte, vous voyez tout de suite qu'il y a une ambiguïté. Pareille économie de la révélation comprend des événements et des paroles intimement unis entre eux, de sorte que les œuvres, donc les événements, les œuvres réalisées par Dieu dans l'histoire du salut, c'est un autre terme pour dire économie, attestent et corroborent, et la doctrine, ah, qu'est-ce qu'elle a à faire ici ? Et le sens indiqué par les paroles. Alors la commission biblique qui a été consultée dans la rédaction a vivement protesté contre l'introduction de la doctrine ici, mais le terme est quand même resté. voyez, il y a une ambiguïté, parce qu'on ne voit pas très bien, est-ce que ça fait référence à la première doctrine, c'est-à-dire la doctrine sur la révélation et sa transmission. Que veut dire doctrine ici? Vous voyez, dans les synoptiques, on n'a pas, on a des événements, des paroles dans les actes des apôtres, mais on n'a pas de doctrine. Voilà. Tandis que les paroles profèrent les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Et maintenant, c'est magnifique, la magnifique finale. La profondeur de vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme, les dieux intimement liés, comme dit bien la première et la deuxième phrase de ce texte, resplendit pour nous dans le Christ. Et maintenant vient quelque chose de tout à fait décisif, c'est toute la christologie qui est impliquée ici, qui est à la fois médiateur et la plénitude de toute la révélation. Il est à la fois le médiateur. Qu'est-ce que c'est un médiateur? C'est un médiateur, le médiateur s'efface. C'est le propre du médiateur. Il faut qu'il existe pour pouvoir s'effacer. C'est pas lui qui est le centre. C'est bien que je m'en aille, dit le Christ selon saint Jean. Voilà le médiateur. Il faut, pour pouvoir s'en aller, il faut qu'il soit là. Présence. Mais une présence qui s'efface au profit du lien intime entre Dieu qui en Christ se révèle lui-même en personne et les hommes qui participent dans leur destinée à Dieu lui-même. Dieu n'a rien à nous révéler, je vous rappelle cette formule, il n'a qu'une seule chose à nous dire, c'est lui-même et lui-même comme notre destinée. Voilà. Et donc le Christ est médiateur de cela. Mais je disais déjà, pour s'effacer, il faut qu'il existe. Et la résurrection sera la manifestation de cette vie permanente du Christ, et c'est pour ça qu'on dit en même temps la plénitude. La plénitude étant à la fois présence et effacement, pourrait-on dire. Pascha, le mystère, n'est-ce pas? Pascal, passage. Voilà, si vous voulez, je dirais, le point essentiel. Donc, je disais, il y a le nœud du conflit ici. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'était très difficile de faire ce passage. Et donc, on a des traces, si vous voulez, du modèle d'instruction. De passer réellement du modèle d'instruction à un modèle de communication. Et toute la catéchèse, jusqu'à la catéchèse initiatique, depuis Vatican II, est centrée sur le modèle de communication. Le modèle de communication. Mais l'instruction n'est pas sans poser de problème, c'est pour ça qu'on va évidemment y revenir. Alors, on a commenté, si vous voulez, je dirais, le numéro 2. Alors, on revient un peu au texte, au livre ou à votre texte. Donc, le numéro 2, nature de la révélation. Le numéro 3 et le numéro 4, donc, la préparation de la révélation évangélique, donc l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament interprété ici très radicalement de manière christologique. Le Nouveau Testament, le Christ plénitude personnelle, on a vu déjà la finale. Et le numéro 5, c'est l'accueil de la révélation par la foi. Par la foi. Alors je vais vous lire ça. À Dieu qui révèle est due l'écoute de la foi. L'obéissance de la foi. Et on vous cite ici les deux formules centrales de l'Épître aux Romains, chapitre 16 et Romains 1, 5. Et on ajoute 2 Corinthiens 10, vous allez regarder. La foi vient de l'écoute, n'est-ce pas? Et l'obéissance, vous voyez, vous avez deux termes latins. Obsequium, et ça c'est le terme, je vais les montrer. Alors, obsequium vient de obsequere, ça veut dire suivre. On n'entend plus ça. obsequium, c'est donc formé sur la suite du Christ. Et souvent, on a traduit dans le passé soumission. Voyez, à Vatican I, c'est ça, ça donne toute une autre connotation. À Vatican I, on utilise plutôt ce terme, obsequium. Et à Vatican II, on revient au texte grec et on prend donc la formulation latine obeditio. Auditio. Auditio. Audition. Et donc écoute. Donc ça, c'est tout à fait essentiel, ce point. La foi vient de l'écoute de l'évangile, de la parole même de Dieu. Alors, je reviens. À Dieu qui révèle est due l'écoute de la foi, si on traduit littéralement. Vous avez des traductions qui traduisent plutôt écoute de la foi. Par laquelle, vous voyez, cette formule est tout à fait analogique à la première phrase du numéro 2. Ça a la même structure que le numéro 2. Mais cette fois-ci, on se situe du côté de l'homme. Par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu. À l'autocommunication de Dieu correspond l'offrande même de l'homme, qui s'en remet à Dieu. Vous voyez, dans De Filius, le texte de Vatican I, je vous avais averti, je vous avais dit, qu'est-ce que offre l'homme là? Sa libre obéissance. Comme s'il restait en dehors de son offrande d'une certaine manière. Ici, il s'offre lui-même. La foi, c'est ça. S'en remettre librement et tout entier à Dieu. Et maintenant, on cite Vatican I, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle, et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. Tout ça, c'est des formules de Vatican I. Pour exister, cette foi requiert la grâce prévenante, aidante de Dieu, donc il n'y a pas de foi sans grâce, la justification, il n'y a pas de foi sans grâce, c'est un impossible d'une certaine manière à l'être humain, il faut que Dieu lui-même prenne l'initiative, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint, ainsi que les secours intérieurs, voilà, du Saint-Esprit, qui touchent le cœur et le tournent vers Dieu, ouvrent les yeux de l'Esprit, et donne à tous, alors c'est le concile d'Orange, la douceur de consentir et de croire à la vérité. Afin de rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit Saint ne cesse par ses dons de rendre la foi plus parfaite. Voilà, donc ça c'est donc la définition de la foi. Et bien, on va encore terminer ça, quelques instants, très rapidement, vient seulement à la fin ce numéro 6. Alors, on revient au schéma synoptique, voyez, où je vous ai mis d'un côté De Filius et de l'autre côté De Verbum. Donc, vous avez à la fin du numéro 6. Donc là, on reprend maintenant à la fin seulement les autres paragraphes de De Filius. Mais déjà, en les réordonnant et en les mettant à une autre place, on les réinterprète. Vous rappelez, il s'agit ici de ce qu'on appelle la connaissance naturelle de Dieu. Alors, comment c'est fait? Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester. Donc, on revient de nouveau à cette formule. Et là, on rajoute « et se communiquer ». Donc là, ça devient clair. Donc, se révéler, se communiquer. Lui-même, ainsi que manifester et communiquer. Alors là, on vous cite Vatican I au pluriel, les décrets éternels de sa volonté. Mais voyez, c'est cité maintenant à l'intérieur de tout un nouveau schéma, d'un tout un nouveau ensemble, à l'intérieur de tout un nouveau système, c'est recadré. Concernant le salut des hommes, alors ça en ajoute. Donc les secrets éternels, ils sont tous centrés sur une seule chose, le salut des hommes. À savoir de leur donner part au bien divin qui dépasse toute pénétration humaine de l'esprit. Le Saint Concile confesse, alors là c'est très important cette formule d'introduction, voyez, vous avez plus ici l'idée d'un préambule, d'un préalable, comme s'il y avait d'abord une connaissance naturelle de Dieu, premier étage, et ensuite vient le deuxième étage, la voie surnaturelle. Mais c'est de l'intérieur même de la foi chrétienne qu'on confesse que le nom de Dieu qu'on confesse est au moins un mot accessible à tout être humain. Vous rappelez l'interprétation que j'ai donnée de Vatican I. Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Donc Romains 1, 20. Donc c'est une réinterprétation complète de ce qu'on appelle la connaissance naturelle de Dieu. Bien, donc ça, si vous voulez, je dirais, c'était le numéro 5, le numéro 6. Alors, je vous invite maintenant aussi de lire pour vous Dignitatis Humanae, parce que le Concile est revenu tout à fait à la fin à la révélation et à la fois sous l'angle de la liberté. Et c'est pour ça que je vous ai distribué le texte, c'est dans le numéro 10. Et vous voyez dans ce magnifique texte comment, au fond, le paradigme de la communication est poussé jusqu'au bout. Enraciné dans la relation entre le Christ et ses disciples et ses contemporains. Donc je vous laisse découvrir ça, parce que maintenant, avec toutes les explications que j'ai données, à mon avis, vous pouvez aller vous-même et lire cela. Alors, conclusion très rapide, une première évaluation. Premièrement, donc ce qu'on appelle un changement paradigmatique. Qu'est-ce que c'est d'un changement paradigmatique? Vous voyez, pour ceux qui ont fait un peu de physique, c'est le passage, par exemple, de la physique classique newtonienne vers la physique des quanta et la théorie de relativité d'Einstein. Vous voyez, on bricole pas la physique classique, mais on passe d'un univers, d'une compréhension vers un autre. On appelle ça un changement paradigmatique, et un changement paradigmatique dans les sciences, comme dans l'Église, est toujours traversé nécessairement par des conflits, par des conflits paradigmatiques, parfois même par une révolution paradigmatique. Ce n'est pas le cas ici. Et à Vatican II, le Concile produit un changement paradigmatique. Il y a évidemment un pivot. Dans ce passage, c'est le concept d'autorévélation que vous trouvez dans les deux. Donc, ça porte sur quoi? Sur l'unité interne de la révélation et de la foi. Les deux sont intimement liés. Identité et recevabilité, révélation et foi. Comprises désormais comme relation, comme don, autodonation de Dieu, offrande de l'homme au sein de l'histoire. Sans que Dieu et l'homme fassent nombre, parce qu'il y a toujours évidemment l'épreuve, la conversion, je l'ai dit tout à l'heure, qui traverse cette relation. Premier acquis. Deuxième acquis, la liberté de la foi est reconnue sans extériorité aucune. L'homme n'offre pas librement quelque chose, mais il se met en jeu, oui ou non. Oui ou non. Voilà. Alors ça, c'est le premier élément. Et ensuite, vous voyez, une autre manière d'exprimer la même chose, le passage d'un modèle d'instruction, j'ai déjà expliqué ça, vers un modèle de communication, mais la place exacte de la doctrine n'est pas précisée. Et ça vous expliquerait, j'y reviendrai tout de suite, après beaucoup de choses des 50 ans post-conciliaires que nous venons de vivre. Le catéchisme de l'Église universelle doctrinale, quel est son lien? Quel est son lien avec le kérigmatique, et avec Ecclésia, et avec, pour parler de la France, avec le directoire de la catéchèse, avec la catéchèse initiatique qui est kérigmatique. Quel est le lien entre les deux? Voilà. Donc, que signifie finalement dans les traces des conciles de Trente et de Vatican I? Parce que, à la fois, c'est dans les traces, on le voit littéralement, c'est les citations qui vous montrent ça, on cite abondamment des deux conciles, et en même temps, il y a un changement paradigmatique qui se produit. Quel est le lien? La réception du programme de Jean 23, finalement, qui est en jeu. Il ne s'agit pas de rajouter des doctrines, mais le problème, c'est la pastoralité de la doctrine. Vous vous rappelez de ça? On en a parlé de ça au début, dans ce chapitre. Bien, il est temps de faire la pause. vais essayer de parler plus doucement parce que je ne connais pas assez l'appareil. Je ne vais pas y toucher. Alors, on va prendre maintenant la question avec laquelle j'ai fini. Et elle va traverser l'ensemble du chapitre 3 que j'ai intitulé « Différentes approches de l'identité chrétienne ». Et dans sa première partie, et aussi dans sa deuxième partie, ce chapitre va traiter donc du rapport entre l'identité kérigmatique, vous comprenez maintenant déjà un peu ce terme, et ce que j'ai appelé jusqu'à maintenant le doctrinal, c'est-à-dire c'est de l'ordre second, doctrine sur la révélation divine et sa transmission, et se cache derrière toute la question très complexe, le dogme. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Donc il faut en parler maintenant. D'où le titre « Identité dogmatique » ou « et » voyez là, il y a un petit problème. « Identité kérigmatique de la foi ». Alors on va traiter ça en traversant évidemment un peu l'histoire pour que vous compreniez mieux ce qui est derrière, au fond, je dirais, le développement que j'ai très brièvement abordé en parlant de doctrina. Vous vous rappelez, j'ai parlé de Saint-Augustin, la doctrina christiana, et j'ai cité aussi le texte de Saint-Thomas que vous avez même dans votre dossier. Et ce qui deviendra alors à Vatican I, le modèle d'instruction. Et à Vatican II, on propose quand même une articulation entre l'identité de type communicationnel, kérigmatique, de la foi chrétienne autour de la notion d'autorévélation et la question de la doctrine, même si ce n'est pas tout à fait clarifié. Alors, dans le point 2 de ce chapitre 3, je vais vous proposer une solution, bon, qui s'inscrit dans la tradition paulinienne et qui s'inspire, vous voyez, des distinctions de Yves Congar et d'autres qui ont abordé ce problème, l'identité comme tradition. Donc c'est là où je reviens à la question qu'on m'a posée aujourd'hui. Et dans le numéro 3, la troisième partie, page 21, on va regarder les identités croyantes. Vous voyez, révélation, foi, mais qui sont finalement les personnes qui croient? Ça sera le numéro 3. Et vous voyez, avec le numéro 4, je reviens au point de départ de notre herméneutique fondamentale, à la page 23, croire en un Dieu qui s'est livré définitivement à notre histoire pour être reçu aujourd'hui. Donc on reviendra au problème de la culture et au problème de la recevabilité. Voilà donc ce parcours du troisième chapitre. Alors, le sens d'abord des concepts, pour être clair, je vous renvoie ici à un petit livre qui reste un petit chef-d'œuvre remarquable, Walter Kasper, Dogme et Évangile. Vous avez la première édition, mais il existe maintenant un reprint qui a été faite, j'ai poussé à cela aux éditions du CERF en 2010. Donc ça se lit très facilement et ça explique bien les concepts. Alors le mot dogme. Le dogme est d'abord, je dirais, quand on fait un petit historique, c'est d'abord chez Luc 21 et dans les Actes chapitre 17, un édit impérial. Ça c'est le sens original, un édit impérial. Ensuite, deuxièmement, donc vous voyez, on est du côté de la loi. L'empereur est en Éphésiens 2:15, le terme dogma signifie la disposition de la loi juive. Alors de là, on peut aller vers une troisième signification, c'est la décision disciplinaire du Concile de Jérusalem. Donc le concile, entre guillemets, de Jérusalem, acte 15, Et dans 16, donc Paul et Barnabé promulguent d'une certaine manière ou communiquent ce décret dans les différentes communautés qu'ils avaient visitées. Et donc, c'est des décisions disciplinaires de ce concile. Donc, on ne vous impose rien, pas de circoncision, mais il y a quand même quelques problèmes autour de la loi de la pureté qu'il faut respecter, etc. Donc, ça, c'est la troisième signification. Et ensuite, on retrouve, je dirais, le terme au concile de Nicée, donc le premier, 325, premier concile œcuménique. Mais attention, il n'utilise pas le terme pour sa décision de foi. Non. Donc le symbole de Nicée, le célèbre symbole, est la condamnation de l'arianisme, qui dans notre esprit est peut-être la première formulation dogmatique, n'est pas appelé dogme. Alors ensuite, il faut attendre très 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 longtemps, parce qu'au fond, je dirais, donc le terme, finalement, quand on regarde ces premières quatre étapes, le terme n'existe pas dans l'Antiquité sous la forme que nous lui donnons aujourd'hui. Il arrive au XVIIIe siècle chez un certain Philippe Néry Crisman, vous trouvez ça à la page 35 du livre de Casper. Un dogme de foi n'est rien d'autre qu'une doctrine, doctrina, on revient à ce terme classique, un dogme de foi n'est rien d'autre qu'une doctrine et une vérité divinement révélée. Doctrine et vérité que le jugement public de l'Église propose à croire de foi divine, de sorte que leur contraire est condamné par la même Église comme doctrine hérétique. Donc là, de même nature que le Père, voilà, vous rappelez de ça, Concile de Nicée, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et ensuite, après le symbole, viennent les anathèmes, donc condamnés. Alors, vous avez la définition dans Diéphilus, chapitre 3. Vous rappelez, je vous ai fait changer dans le texte, déplacer un paragraphe. Le chapitre 3, vous avez d'abord plusieurs paragraphes qui parlent de la foi, et à un moment donné, au milieu du texte, vient cette formule, et qui est la définition de ce qu'est un dogme. On doit croire de foi divine et catholique. Tout ce qui est connu dans la parole de Dieu, donc c'est Philippe Néry Crisman, c'est-à-dire qui reprend près ici, écrite ou transmise, mais alors, je veux dire, comment savoir ça? Qu'est-ce qui est défini? C'est-à-dire, c'est l'Église qui intervient ici. Donc le « et » est tout à fait décisif. Et que l'Église propose à croire comme telle, comme divinement révélée, soit par un jugement solennel. Qu'est-ce que c'est un jugement solennel à Vatican I? C'est les conciles œcuméniques. C'est les conciles. Donc Nicée, c'est un jugement solennel. Solennellement, face à une contestation, à une difficulté, on redit, c'est la doctrine, c'est pas le kérigme. On dit ce qui est de foi catholique, ça n'a pas encore le sens à partir du XVIe siècle, vous voyez, catholique romain, catholique universel. Voilà. Donc, le jugement solennel. Soit par le magistère ordinaire et universel. Alors, il faut presque, c'est Bernacis Boué qui invite ici mettre des tirets. Le magistère ordinaire et universel. Qu'est-ce que c'est, le magistère? Qu'est-ce qui est de foi divine? C'est-à-dire, on fait un acte de confiance, c'est-à-dire quand votre curé cause le dimanche, on présuppose qu'il raconte pas des carabistouilles ou, comment dire, de ses propres idées, mais il est censé de commenter les textes d'évangile et donc de dire la foi catholique au sens le plus universel du terme. Il exerce un magistère ordinaire et universel. Le universel est très important. On va y revenir. Pourquoi il est important? C'est-à-dire pour constater alors ce qui fait partie de la foi divine, il faut consulter toute la chrétienté. Toute la chrétienté. Et on peut le présupposer que normalement, c'est cette foi universelle qui est proclamée. Mais parfois, il faut constater les choses, il faut s'interroger, regarder le synode. Là, on est un peu dans un moment extraordinaire, extraordinaire. Le concile, c'est un moment extraordinaire. On n'est pas en concile tous les jours. Voilà. Bien, donc ça, c'est, si vous voulez, je dirais, la définition moderne. Et ce qu'on découvre quand on fait un peu ce petit parcours, c'est moderne comme définition, le dogme. Comme le terme théologie dogmatique est un terme moderne du 19e siècle. Donc ça veut dire, on a souvent reprojeté sur le passé quelque chose qui est contemporain, moderne. Ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas avant, nous allons le voir. Alors ensuite, maintenant le kérigme, donc l'annonce de l'évangile par Jésus. Voilà le kérigme. Croyez en l'évangile, voilà, le royaume s'est approché, convertissez-vous. Voilà le kérigme. Et ensuite, évidemment, par Paul, et c'est là où Jésus n'est plus uniquement l'évangélisateur, mais il est l'évangile. Il devient l'évangile. Donc je renvoie au schéma 1 ici, qui nous accompagne depuis le début. Romains 10. Donc, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? L'annonce de l'évangile est un événement de relation. Ah, ça, c'est décisif. Vatican II, justement, le reconnaît à la fois dans Dei Verbum 2, un événement. Événement significatif, événement de parole, etc. Et il reprend ça dans Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Un événement de relation qui suppose l'écoute effective d'une parole. L'écoute effective d'une parole. L'écoute et l'annonce. Voilà les kérigmes. Donc le problème qui va se poser maintenant, c'est le lien intime entre kérigme et dogme. Quel est ce lien, voyez, entre ce processus qui se vit dans l'Église depuis le début, processus, j'appellerai ça plus tard tradition, ce processus, et alors quelque chose, c'est-à-dire qui passe à travers d'une certaine manière, vous voyez, qui est la structure, qui est la norme, ce qu'on appelle le dogme. Quel est le rapport? Et donc nous allons aborder cela maintenant de manière historique dans la partie B, parce que on va maintenant évidemment entrer dans quelques conflits autour de cela et quelques difficultés. Jusqu'à nos jours. Alors, vous avez un texte fondateur ici, que j'ai déjà longuement commenté et lu, Romains 10, et ensuite on peut distinguer deux phases historiques. Une première phase, c'est-à-dire qui est marquée par une tentative que j'appelle ici d'objectiver le kérigme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est objectiver? C'est-à-dire de mettre à distance le kérigme, d'en faire un objet. C'est-à-dire, on est à la fois à l'intérieur du kérigme, comme croyant, toujours comme quelqu'un qui écoute la parole et qui l'annonce, en espérant qu'entre les deux, entre l'écoute et l'annonce, ça descend dans le cœur. Vous rappelez, n'est-ce pas, ce schéma 1? Donc, qui restera toujours à notre horizon, on espère cela, voilà. Donc, on met à distance dans la première phase le kérigme. On transforme le processus en objet qu'on peut penser, objectivation. Et ensuite, la deuxième phase, parce qu'on est allé tellement loin dans l'objectivation, et le symbole est sans doute la Summa Theologica de Thomas d'Aquin, donc nous avons déjà vu, qui va jusqu'au bout de cette objectivation, qu'on éprouve le besoin au XVIe siècle en particulier, ça commence un peu avant, de réaffirmer l'identité kérigmatique de la foi. Donc ça c'est la deuxième phase. Alors, avant qu'on entre dedans, très rapidement, je reviens, si vous voulez, au texte fondateur, le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, dans cette acclamation communautaire, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Et ensuite, vous rappelez, le texte continue. Mais comment croire s'il n'y a personne qui annonce? Et comment annoncer si personne n'est envoyé? Donc, vous voyez, vous avez toute cette structure d'envoi qui vient ici. Alors, cela nous invite à distinguer ici deux niveaux. Alors, je vais un peu plus lentement pour que vous puissiez comprendre ça. Vous voyez, je distingue ici entre le contenu et la forme. Alors, qu'est-ce que c'est le contenu de la règle de foi? Le contenu de la règle de foi, c'est tu proclames Jésus est Seigneur et tu crois que Dieu l'a ressuscité. Voilà, ça c'est le contenu de la foi. Le contenu. Vous voyez, on peut très rapidement ensuite l'objectiver, on peut le développer. Jésus est Seigneur, la seigneurie de Jésus, sa messianité et son lien avec Dieu, c'est-à-dire Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est le cœur de la foi, le contenu, la règle de foi, comme on dit aussi très rapidement. Et évidemment, il y a un troisième élément, crois dans ton cœur. Alors ça nous conduit déjà vers l'Esprit Saint, vers ce qui va devenir le troisième article, l'Esprit qui, nul ne peut dire, première lettre aux Corinthiens, Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint, sinon dans l'Esprit. Donc vous voyez, pourquoi c'est une règle? Parce qu'évidemment, quand vous annoncez la foi, quelqu'un advient à la foi, accède à la foi, et vous allez le baptiser. Et à ce moment-là, vous lui donnez la règle de la foi, le contenu de la foi, pour qu'il puisse la redire, pour qu'il puisse acclamer lui, Jésus est Seigneur, et croire, et dire, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité. Et ça, c'est l'acte d'intégration avec le baptême. Donc la profession de foi et l'acte baptismal. Donc c'est un événement, l'accès à la foi, et il y a un contenu. Alors vous voyez, j'ai distingué ici entre contenu et forme. Le contenu, je viens de le dire, vous pouvez le développer, les premiers symboles baptismaux, les premiers symboles de baptême, et qui deviennent, à partir du concile de Nicée, Constantinople, le symbole de Nicée-Constantinople que nous disons parfois encore le dimanche dans nos églises. Donc vous voyez, avec les trois articles, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et l'Église accrochée à l'Esprit Saint, nous croyons, je crois, plutôt en Occident, on insiste sur le « je », les orthodoxes disent toujours « nous », voilà. Et donc ça, c'est le contenu du kérigme, le contenu du kérigme. Mais ensuite, c'est la question, mais dans quelle forme? Vous voyez, la forme du catéchisme, la forme, je dirais, du sacrement du baptême avec le catéchuménat, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, est-ce que on entend encore que c'est vraiment un événement, comme dit Vatican II, ou est-ce que on insiste tellement sur un contenu objectivé et orthodoxe qu'on oublie l'événement qui est visé par le contenu? Donc, vous voyez, c'est là la question. C'est que j'appelle la forme. Et donc, à ce moment-là, si on insiste sur la forme, le contenu de la foi, du kérigme, régule le processus. Il régule le processus. Et le processus, c'est effectivement proclamer que Jésus est Seigneur et de croire en son cœur que Dieu l'a ressuscité. C'est un acte de foi et de prière, de doxologie, de chant, etc. Et le contenu, c'est l'objectivation de cela. Alors, la première phase que j'appelle vers l'objectivation du kérygme. Et on va donc un peu observer ça. Et je vous ai donné dans l'annexe numéro 12, donc vous tournez un peu vos pages, un très grand texte de saint Irénée. Donc, à partir de la page 83, qui est un texte étonnant et qui vous permet d'observer, au fond, le passage vers l'enseignement. Commentaire donc du Contre les hérésies, on est tout à fait au début. Du kérygme à l'enseignement, c'est le premier point qu'on va trouver. Vous allez déjà trouver ici une distinction très importante, les deux temps de la tradition et la question des sujets de la tradition que j'ai déjà évoqué avec des iverbum. Vous voyez, l'écriture n'existe pas sans ceux et celles qui l'ont mis par écrit et les lecteurs et les lectrices à travers la tradition, donc l'acte d'interprétation. Le Seigneur de toutes choses a en effet donné à ses apôtres l'autorité d'annoncer l'évangile. Donc vous voyez, on est dans le kérygme. Et c'est par eux que nous avons connu la vérité, c'est-à-dire l'enseignement du Fils de Dieu. Donc là apparaît l'enseignement. C'est aussi à eux que le Seigneur a dit « Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous méprise, me méprise, et méprise celui qui m'a envoyé. » Donc on est vraiment dans la forme du processus kérygmatique. Car ce n'est pas par d'autres que nous avons connu l'économie de notre salut. Alors ça vous dit maintenant quelque chose, l'économie du salut. C'est ça que Dei Verbum reprend. Mais bien par ceux par qui l'évangile nous est parvenu. Donc l'évangile n'existe pas sans ceux et celles qui l'annoncent. Cet évangile, ils l'ont d'abord prêché. Ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans des écritures. Ah, chapitre 3 de Dei Verbum, chapitre 2 déjà. La mise par écrit, pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi. Car il n'est pas non plus permis de dire qu'ils ont prêché avant d'avoir reçu la connaissance parfaite. Alors ça, c'est contre les gnostiques, vous voyez. Comme osent le prétendre certains qui se targuent d'être les correcteurs des apôtres. En effet, après que notre Seigneur fut ressuscité d'entre les morts et que les apôtres eurent été, par la venue de l'Esprit-Saint, revêtus de la force d'en haut, ils furent remplis de certitude au sujet de tout. Vous voyez, on vous raconte quelque chose ici, un processus se raconte. Retenez ça, ils furent remplis de certitude au sujet de tout. Et ils possédèrent la connaissance parfaite. Et c'est alors qu'ils s'en allèrent jusqu'aux extrémités de la terre, proclamant la bonne nouvelle, toujours le kérygme, des biens qui nous viennent de Dieu, et annonçant aux hommes la paix céleste. Ils avaient magnifique formule. Tous ensemble, et chacun pour son compte, l'évangile de Dieu. Ça, c'est ce que viendra la collégialité à Vatican II. Ensemble, on ne peut pas avoir tout seul l'évangile. Tous, ils l'avaient, ensemble. Et en même temps, ce n'est pas un collectif indifférencié. Il faut qu'encore qu'à l'intérieur des tous, chacun l'ait. Sinon, il n'y a pas de dispersion possible. Chacun l'emmène, mais chacun l'emmène avec les autres 11, si je puis dire, les frères. Ainsi Matthieu, Marc, Luc, Jean, voyez, c'est le paragraphe suivant. Et voyez maintenant le paragraphe important qui nous fait passer tout d'un coup à l'objectivation. Donc le processus, on passe, si vous voulez, je dirais, de la forme du processus qu'on vous raconte, au contenu même. Et tout cela nous ont transmis l'enseignement suivant. un seul Dieu créateur du ciel et de la terre, qui fut prêché par la loi et les prophètes, et un seul Christ, fils de Dieu. Ah, vous avez déjà le symbole ici, la règle de foi. Si donc quelqu'un leur refuse son assentiment, il méprise ceux qui ont eu part au Seigneur, méprise aussi le Seigneur lui-même, méprise enfin le Père. Il se condamne lui-même parce qu'il résiste et s'oppose à son salut, ce que font précisément tous les hérétiques. Alors, un petit mot ici, si vous voulez, je dirais, à propos du mot hérétique. Donc, ça vient de grec « haïrésis ». Qui veut dire sélection, choix. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ils ont reçu tout. Et donc l'hérétique, c'est celui qui choisit dans le tout. Qui choisit dans le tout. Donc qui prend un point de vue qui est finalement reconnu, vous voyez l'universel dont j'ai parlé tout à l'heure, par tous, c'est ça la condition, comme un point de vue qui ne tient pas parce qu'il est, si vous voulez, partial. On pourrait traduire partial. Une partialité. Une sélection partiale à l'intérieur d'un tout. Alors, je définis le terme avec ça, je n'ai pas encore dit toute la complexité d'une reconnaissance de ça. Vous voyez, à partir du IVe siècle, c'est un concile qui constate ce genre de choses. Mais on a déjà ici l'idée que finalement, l'hérétique se condamne lui-même. Alors, ça c'est donc, si vous voulez, le premier point du kérigme à l'enseignement. Les deux temps de la tradition, les sujets de la tradition, on l'a déjà eu, les sujets. Donc ici, c'est les apôtres. Alors regardons un peu à droite de votre feuille le numéro 2-2. Mais lorsqu'à notre tour, nous en appelons à la tradition qui vient des apôtres. Donc tout ce qui est dit dans le point numéro 1-1 et 1-2, vous voyez, c'est la tradition qui vient des apôtres. Donc la forme kérigmatique, mais déjà objectivée dans un contenu. Et qui, grâce aux successions des presbytres, alors vous voyez là, c'est pas encore la succession apostolique ou la succession des évêques, ça viendrait un peu plus loin, mais la succession des anciens se garde dans les églises, ils s'opposent à cette tradition, etc., etc. Et regardez 3.1, plus bas, ainsi donc, la tradition des apôtres, donc, retraduisons toujours la tradition qui vient des apôtres, c'est ça, dont ils sont le sujet, qui a été manifesté dans le monde entier, c'est en toute l'Église, vous voyez, vous avez de nouveau le tout, tous ensemble, qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Or, ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là, etc. Alors vient à la fin un principe remarquable ici en bas de page. Car ils voulaient, les apôtres et les successeurs et les églises, que fussent absolument parfaits et en tout point irréprochables ceux qu'ils laissèrent pour successeurs et à qui ils transmettaient leur propre mission d'enseignement. Si ces hommes s'acquittaient correctement de leur charge, ce serait un grand profit. Donc ça veut dire, c'est pas nécessairement qu'ils le font. On peut bien le sous-entendre ici. Tandis qu'ils, s'ils venaient à faillir, ça serait le pire malheur. Donc c'est là où on voit que l'apostolicité se combine avec la sainteté. Les hagiographes, les saints apôtres. Il y a un lien intime ici. Voilà, si vous voulez, ce qu'on lit chez saint Irénée. Donc, je récapitule ce point A. Premièrement, Vous voyez bien, on est dans le processus d'annonce. Les personnes bougent, parce qu'évidemment les apôtres meurent, et il y a l'idée de succession, et c'est les églises qui leur succèdent, qu'ils ont fondées, et dans les églises, les presbytres, les anciens, et leurs successeurs, qu'on appellera aussi les évêques. Voilà. Donc ça, c'est la tradition qui vient des apôtres. Le processus kérigmatique continue. Et en même temps, vous avez déjà une objectivation ici qui est faite, un contenu. Alors regardons maintenant le point B et on va venir au cinquième concile œcuménique, Constantinople 553. Et donc là, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Alors, comment comprendre ce qui s'est passé? D'abord, je dirais, il faut savoir, donc on est passé dans une église impériale à partir du IVe siècle, ce qu'on appelle parfois le tournant constantinien. C'est la première chose. Et on a quatre conciles œcuméniques dont on ne va pas parler, on parle de cela en christologie et en théologie trinitaire, qui explicitent le contenu. Donc Nicée, Constantinople, Nicée 325, Constantinople 381, donc avec le symbole de Nicée-Constantinople et ses trois articles, 431 Éphèse, le concile d'Éphèse, avec deux choses intimement liées, c'est-à-dire l'union hypostatique, comme on dit aussi, c'est-à-dire la personne du Christ, ou mano divine, et la maternité divine de Marie, et 451, les deux natures du Christ et leur unité, hein, sans confusion, sans séparation, donc 451, le concile de Chalcédoine. Et ensuite, avec le cinquième concile, tout d'un coup, il y a une prise de conscience, une prise de conscience extraordinaire, et on se réfère aux quatre conciles précédents comme à quelque chose qui est écrit et qui va faire désormais norme. Alors c'est ça que vous voyez dans le deuxième texte que je vous ai distribué. Donc il y a quelques problèmes, même avec le pape, qui s'appelle Vigile, qui est présent à Constantinople, mais qui ne participe pas directement au concile. Et on va vers la fin de la page 2, là, de votre dossier. Donc, c'est toujours le même dossier. Vous tournez simplement la page après Saint-Irénée, on continue. Les annexes, mes amis, on est dans les annexes. L'annexe 12, où j'ai lu Irénée, et vous tournez. Et vous trouvez donc le concile Constantinople 2, 553. Alors, je vais vous lire ça. On va terminer avec ça aujourd'hui et on est presque arrivé à la fin de la première phase. Donc, il y a un conflit. Pour cela, nous avons rappelé à sa mémoire. Donc, les pères conciliaires rappellent à la mémoire de Vigile, du pape, qui est la référence. Les grands exemples des apôtres et les traditions des pères. Donc, il y a les pères de l'Église, les pères interviennent ici. Car bien que la grâce du Saint-Esprit ait été assez abondante sur chacun des apôtres pour qu'il n'ait pas eu besoin du conseil d'autrui sur ce qui était à faire, ils n'ont cependant pas voulu décider autrement de la question soulevée. Fallait-il que les païens soient circoncis? Donc voyez, on revient pour la première fois ici à Acte 15, donc au Concile de Jérusalem, comme on dit aussi, avant que dans un commun rassemblement, chacun ait confirmé ses positions par les témoignages des divines écritures. Voilà, donc vous voyez, c'est l'universel, ici. Ils avaient tous, et chacun pour lui-même, tous ensemble, toute l'Église, l'Évangile. Aussi est-ce ensemble qu'ils ont prononcé leur jugement sur le sujet en écrivant aux païens, il a semblé bon à l'Esprit Saint et à nous de ne vous imposer aucun autre fardeau au-delà du nécessaire.
vous abstenir des viandes immolées, aux idoles, du sang, des viandes étouffées et de la fornication. Vous rappelez, c'est ça que les actes appellent dogma. J'ai rappelé ça tout à l'heure. Page suivante. Ce sont aussi les saints-pères qui, au long des temps, se sont réunis dans les quatre saints conciles, je l'ai rappelé à l'instant, suivant les exemples anciens et en statuant en commun sur les hérésies et les questions soulevées. Jamais on peut tout seul condamner quelqu'un de l'extérieur en disant c'est un hésiarque. Voilà. Non, c'est quelque chose en commun dans l'ancienne Église. C'est l'universel qui intervient. Tenant comme, alors magnifique cette formule, retenez-la, apprenez-la par cœur, tenant comme règle certaine, voyez là paraît une règle ecclésiale, que lorsque les questions qui doivent être tranchées par les deux parties sont posées lors de discussions communes, la lumière de la vérité chasse les ténèbres du mensonge. Règle de communication. La vérité est liée à une communication. La manifestation de la vérité est toujours liée au déplacement des fratricides en vue d'une communication. Voilà. Voilà la règle. On va y revenir. Car dans les discussions communes sur la foi, la vérité ne peut se manifester autrement, puisque chacun a besoin de l'aide de son prochain, comme le dit Salomon dans les Proverbes. Un frère donnera aide à son frère. Ils se dresseront comme une place forte, solide comme un royaume bien établi. Magnifique. Il dit encore dans l'Ecclésiaste, deux mieux qu'un seul, ils ont bon profit de leur travail. C'est même le Seigneur lui-même qui affirme, en vérité, je vous le dis, si deux d'entre vous se rassemblent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois en effet soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voyez, vous pouvez transformer ça en contenu, en catéchisme. Mais ce n'est pas le problème. Vous voyez, on est au niveau de la forme même du processus kérigmatique. Oui ou non, est-ce qu'on met en œuvre cette forme-là dans l'Église à toutes les échelles? Et on voit bien, n'est-ce pas, l'intention du pape François de remettre cette règle-là de nouveau en valeur, fondamentalement. Voilà. Donc ne pas faire une république de copains, mais je dirais, il y a les adversaires et des gens qui pensent autrement, et on fait confiance, comme dit le texte, voilà, que lorsque les questions qui doivent être tranchées par les deux parties sont posées lors de discussions communes, la lumière de la vérité chasse les ténèbres du mensonge. Voilà. Ça, c'est la forme ecclésiale, la forme du kérigme même. Comme Vigile a été invité assez souvent parmi nous tous, et en plus par les très glorieux juges envoyés auprès de lui par le très pieux empereur, il a promis par lui-même d'émettre une sentence au sujet des mêmes trois chapitres. Peu importe les détails. Cette réponse entendue, nous gardons en nos cœurs les monitions de l'apôtre. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Mais nous craignons aussi le jugement qui menace ceux qui scandalisent même un seul des plus petits. Ah, voyez, ça c'est la forme. Pas scandaliser les petits. Et combien plus l'empereur très chrétien, les peuples et toutes les églises. Et ce que Dieu a dit à Paul, sois sans crainte, parle, ne te tais pas. « Car je suis avec toi et personne ne pourra te faire du mal. » Donc ça suppose aussi la parésia, la liberté de la parole. Ce que le pape François a rappelé au début du synode. « Réunis, nous avons avant tout, et maintenant vient, si vous voulez, je dis à Saint-Irénée de nouveau, mais revisité au VIe siècle. « Réunis, nous avons avant tout fait confession, en résumant, de garder la foi » que notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu, a transmise à ses apôtres. Ah, voyez, vous êtes dans le processus kérigmatique, la transmission aux apôtres, et par eux aux saintes églises qu'ils ont fondées. Et donc, les sujets, c'est maintenant les saintes églises, au pluriel, les saintes églises. Ça, c'est le premier temps de la révélation. Et que ceux qui furent après eux, on entre dans le deuxième temps. Les saints-pères et les docteurs de l'Église ont transmis au peuple qui leur a été confié. Et ensuite, voilà, on va préciser, nous avons confessé, alors là, ils parlent d'eux-mêmes, au VIe siècle, que nous gardions, et maintenant viennent plusieurs verbes, que nous gardions, conservions et prêchions au sein d'Église cette confession de foi. Et voyez là, on passe au niveau de l'objectivation. Cette confession de foi, cet enseignement, cette doctrine, cette confession de foi compte exposer plus largement les 318 pères réunis à Nicée. Donc souligner, exposer plus largement. Donc Nicée se situe sur un contenu, confession de foi, règle de foi, que Nicée expose plus largement, qui ont transmis cette, voilà, qui ont transmis cette sainte formule ou symbole. Ah, voilà. De plus, ce qu'ont exposé les 150 pères rassemblés à Constantinople, qui ont adhéré à la même confession de foi et l'ont développé. Deuxième terme, exposé plus largement, développé. Deuxième terme. Le consensus pour la même foi des 205 pères rassemblés à Éphèse, et maintenant vient le troisième terme, et ce qui a été défini, définition, par les 630 réunis à Chalcédoine pour l'unique et même foi à laquelle ils ont eux-mêmes adhéré et qu'ils ont prêché. Donc voyez, le kérigme est toujours présent. Prêcher la même foi, écouter et prêcher. Mais en même temps, puisqu'il y a des conflits d'interprétation de ce qu'il faut prêcher, je viens au point de départ de notre soirée, il faut interpréter. Et ce n'est pas l'individu qui interprète, c'est les frères qui interprètent. Donc le concile. Et qu'est-ce que c'est interpréter? C'est de faire une formule, un symbole, de l'exposer plus largement, de le développer et finalement arriver à une définition. À une définition. Et c'est la définition que nous, aujourd'hui, on appelle dogma. La définition. Voilà, donc là, on a déjà vu l'essentiel, il s'agit de l'unique et même foi. Alors très rapidement, pour terminer, vous voyez, je dirais, il y a un problème sous-jacent à tout cela, entre développer plus largement, exposer plus largement, développer et définir. Ces déplacements supposent des conflits et des violences. Et il n'y a rien de plus violent que le IVe siècle, les débats sur l'arianisme et le Ve siècle dans l'Église devenue impériale parce que l'hérésie devient en même temps un problème politique. Et du coup, vous avez des positions très diversifiées qui s'expriment par rapport à ce que le Ve Concile exprime. Et je vous ai mis là les positions. Vous avez d'abord les sceptiques par rapport à toute formule écrite. Saint-Hilaire de Poitiers, Zénon de Vérone, des grands sceptiques au moins dans la première partie de leur existence. Ils ont tellement ras-le-bol sur la charcuterie des formules, si je puis dire. Voyez, tel article dans le catéchisme ou tel autre, qu'ils disent, je dis, même si les formules, à un moment donné, ne correspondent pas vraiment à l'orthodoxie, c'est-à-dire au croire droit, c'est ça que ça veut dire, orthodoxie, ça ne veut pas dire que les gens ne croient pas. Voyez, on revient au kérigmatique, mais ça produit du sceptique. Alors ensuite, vous avez des gens qui disent, on a entendu ça, tout Vatican II, rien que Vatican II. La lettre de Nicée suffit. Donc, arrêtons les développements. Ça, c'est la position d'Éphèse en 325. Parce que si on commence à exposer plus largement, à développer et définir, ça peut aller jusqu'à l'infini. Et finalement, on arrive au catéchisme de l'Église universelle avec 3000 articles ou quelque chose comme ça, vous voyez. Vous vous rappelez quand même comment Jean 23 a arrêté ça et a dit, on va pas convoquer un concile pour rajouter de nouveau. Le problème, c'est la pastoralité. Donc, à Nicée, à Éphèse, on va dire, la lettre du symbole de Nicée suffit. Alors, finalement, troisième position, l'insuffisance de la lettre du symbole de Nicée face à des conflits nouveaux. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des problèmes nouveaux qui émergent? Il faut quand même parler. Et donc, c'est là où on va distinguer au concile de Chalcédoine plus nettement le kérigme qui est une profession de foi de pêcheurs. Prenez ça, les hommes qui vont à la pêche, les apôtres, c'est-à-dire finalement des gens simples, des pêcheurs, ça c'est le kérigme. Et pour ceux qui sont en conflit avec d'autres, il faut qu'on définisse des choses. Donc on commence clairement à distinguer, et voyez, vous avez déjà la distinction entre ordinaire et extraordinaire que je vous ai exposée tout à l'heure. Ordinairement, le kérigme suffit, mais quand il y a des conflits, on passe sur le plan extraordinaire, il faut s'expliquer. Il faut s'expliquer. Donc apparaissent les définitions et le dogme. Et vous avez chez certains l'idée que finalement, à travers tout ça, c'est la révélation elle-même qui se développe. Donc on met en question la clôture de la révélation, que Vatican II va réaffirmer. C'est clôturé, la révélation. Avec le premier temps, elle est clôturée. Dieu a tout dit. Voilà, si vous voulez, la première phase, et vous voyez déjà à quel point il y a des conflits qui ici sont derrière, qui nous ramènent au conflit qu'on a entendu au début du Concile Vatican II avec le discours de Jean 23. Et on verra maintenant, dans la deuxième phase demain, après-midi, comment ces conflits vont rebondir à partir du XVIe siècle. Bien, bonne soirée et à demain.